Entrevue.
La troisième conférence internationale DG aura lieu du 31 juillet au 3 août 2025, parce qu'on est en 2025 maintenant, sous le thème Horizon LGBTQI francophone, transmettre, célébrer et préparer demain. La conférence aura lieu à Montréal. Pour discuter de tout ça, on reçoit le responsable des communications chez Égide, Bruno Laprade. Bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors d'abord, explique-nous un peu en quoi consiste la conférence Égide 2025 et son importance pour les communautés LGBTQI francophone.
Oui, mais d'abord, Égide, on est une organisation internationale qui regroupe plus de 210 organisations LGBTQI dans 34 pays et territoires francophones. Et notre mission est de faciliter l'accès à des ressources pour les mouvements LGBTQI francophones. Donc, on en est déjà à notre troisième conférence internationale qu'on organise, comme tu as dit, donc du 31 juillet au 3 août à Montréal dans le cadre du Festival Fierté Montréal. C'est une journée de préconférence et 3 jours de conférence en mode hybride. On attend au moins 350 personnes sur place et des centaines en ligne. Autant des activistes, des chercheurs, des représentants d'institutions et de gouvernements, des philanthropes, des entreprises pour créer une synergie entre les mouvements LGBTQI et les différentes composantes. Donc, autant des conférences, des tables rondes, des sessions autogérées par nos membres, en plus de l'Assemblée générale d'Égide. Et pourquoi c'est important? On le sait, tu en parles fréquemment, les mouvements anti-genre prennent de plus en plus d'ampleur, sont bien organisés, sont bien financés. L'espace civique pour les communautés LGBT, tant en ligne qu'en personne, se rétrécit. On voit la montée de la haine partout. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se rencontrer pour contrer tout ça, pour se faire des plans. Mais aussi, c'est la première fois que nos membres se rencontrent en personne.
C'est vrai, parce que ça avait été créé pendant la pandémie.
On a été créé juste un peu avant la pandémie. Notre première conférence a dû être transférée en ligne pour des raisons justement de la pandémie, devait avoir lieu à Genève. La deuxième conférence devait avoir lieu au Bénin, mais pour des enjeux de sécurité, on a dû aussi la transférer à la dernière minute.
Oui, je t'interromps parce qu'au Bénin, il y avait eu un coup à ce moment-là. Il y avait eu des agressions, je pense.
C'était pas tant sur la sécurité du pays. C'était pas vraiment le climat politique. C'était vraiment il y a eu un événement qui faisait qu'on a eu une plus grande visibilité qu'on ce qu'on aurait voulu sur place, donc ça mettait à risque les gens qui venaient d'ailleurs.
Oui,
donc,
oui, je comprends.
C'est pas tant le Bénin, mais ailleurs.
Mais c'est autour. Parce qu'il y a eu des attentats à un moment donné, mais bon, on va passer. Ouais, c'était pas pour ça. Donc c'est la première fois en personne et c'est à Montréal.
Et c'est à Montréal. Égide est né, en fait, à Montréal. D'abord, l'idée elle-même est venue des activistes LGBT francophones qui sont venus à une conférence pendant Canada Pride en 2017 et qui ont dit. Nous, on manque d'espace en tant que francophones pour se retrouver sur la scène internationale. Il y a des rapports, on en a déjà parlé, qui montraient comment il y a peu de financements qui vont spécifiquement pour les groupes LGBT dans les pays francophones. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, on a besoin d'un réseau. Et donc, le gouvernement du Québec avait mis un premier montant pour mettre en place Égide, qui est né à Montréal en 2019. Mm-hmm. Et donc, c'est en fait cette année notre 5e anniversaire. Et donc, c'est un peu ce retour aux sources de revenir faire le bilan en même temps avec la conférence de nos 5 ans d'existence sur la scène internationale. Confession.
La thématique Horizon LGBTQI francophone, transmettre, célébrer, préparer demain, ça signifie quoi ce thème?
Oui, chacun de ces trois thématiques-là représente une des journées. Donc, transmettre, c'est autant transmettre nos luttes, transmettre nos histoires, nos archives. C'est se réapproprier ces histoires, notamment avec les histoires qui ont été effacées, notamment dans certains pays à cause du colonialisme. Mm-hmm. C'est célébrer, donc c'est célébrer qu'on a quand même eu, malgré le climat qui est un peu difficile, il y a eu quand même des avancées au courant des dernières années. Il y a des victoires sociales et on ne veut pas toujours être non plus toujours dans la tristesse. L'importance de pouvoir célébrer, d'avoir une certaine légèreté, c'est important. Donc, ça, c'est une façon de mettre à l'avant comment le militantisme peut être une source de joie, comment on a des communautés créatives, comment nos communautés font face à l'inventivité pour lutter également. Et la dernière journée qui est liée sur préparer demain. Donc, comment on s'organise, de quoi on a besoin, quels sont les plaidoyers qu'il reste à faire, c'est quoi les sujets importants et comment on développe et on crée des alliances. Donc, voilà un peu pourquoi la thématique. Donc, passé, présent, futur.
Nous amène à cette conférence-là. Cela dit, il y a des défis et des sujets donc, qui concernent nos communautés, qui seront abordés pendant cette conférence. Quels sont-ils?
Oui, bien, c'est sûr qu'il est trop tôt pour parler un peu de qui va être là, non, par le passé. Donc, Égide a déjà accueilli des invités comme l'ambassadeur français pour les droits LGBTQI, l'expert indépendant des Nations unies sur les enjeux LGBTQI, des juristes internationaux comme Alice Encombe, des gens de la Banque mondiale, des artistes comme Sophie Labelle, Erika Nomeny, Antoine Blacklar, des gens d'organisations internationales comme ILGA ou All Out, et des auteurs comme Si le cerf maupoix, Jules Falquet et beaucoup d'autres activistes. Et donc, le but est un peu donc, d'aller chercher, encore une fois, toute cette communauté diversifiée pour parler, bon, encore une fois, donc, des défis juridiques qui nous attendent encore. Hein, déjà depuis le début 2024, au moins 5 pays francophones ont soit parlé de criminaliser, l'ont fait ou veulent augmenter les peines. On pense au Burkina, au Mali, au Gabon, le Sénégal, encore une fois ici, la RDC. On a eu toutes sortes de contextes qu'on pensait relativement stables, se sont enflammés au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc, il y a tous ces enjeux-là, faire le point de la situation actuellement. La montée du mouvement anti-genre, évidemment, est une grande préoccupation partout à l'international, ouais. Ici aussi, et dans d'autres pays également. Comment on... Sur la scène, en plus, on est une année où il y a eu énormément d'élections. Et nos communautés sont toujours la cible hein, pour que les politiciens se fassent des gains politiques. On l'a vu, que ce soit de la Russie aux États-Unis, même au Canada, les communautés LGBT sont la cible des gens qui partent en campagne. Donc ça, c'est parmi des sujets qu'on va pouvoir aborder.
Là, vous allez essayer de faire venir des gens de 30 pays différents. Quelle sorte de défi ça représente? Parce que moi, je me rappelle de ces gens qui ont essayé de venir ici à la conférence AIDS 2022 puis qui n'avaient pas eu de visa pour rentrer au Canada.
On se retrouve avec les mêmes genres de défis définitivement en termes de visa. On est chanceux, on a quand même un réseau international. On a déjà des membres qui viennent déjà d'une trentaine de pays déjà. Donc, on est déjà connectés. Hein. À ce jour, on a déjà presque 400 inscriptions à la conférence qui sont déjà rentrées entre nos membres, les gens à l'international. Il y a un engouement très fort pour la conférence. Mais c'est sûr que ça coûte cher de faire venir des gens. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de venir, donc il faut offrir des bourses. On est d'ailleurs à la recherche de partenaires qui peuvent réussir à nous appuyer à faire venir des activistes, à sponsoriser des activistes. Sans compter, en effet, la question des visas. Ça prend du temps en plus à obtenir ça. C'est pour ça qu'on annonce la conférence autant en avance, même si c'est simplement l'été prochain, parce que toutes ces démarches-là,
Prennent énormément de temps. Rapidement, là, c'est quoi les impacts qu'on espère avoir avec cette conférence?
Bien, c'est sûr qu'une conférence comme ça, le gros impact, c'est la mise en réseau. Donc, c'est des gens qui se seraient peut-être pas rencontrés, n'auraient pas eu l'occasion, et donc de les faire s'asseoir ensemble et de parler pour voir les synergies qui en ressortent. On espère qu'il y a des nouveaux partenariats à l'échelle mondiale pour faire avancer nos communautés. On veut en faire ressortir aussi des recommandations, du plaidoyer pour aller continuer à porter sur les enjeux qui concernent nos communautés. Peut-être qu'il y a des nouveaux angles aussi, des nouvelles réalités qu'on n'a pas encore vues. Mais surtout, ce genre de conférence, c'est aussi un répit pour les activistes. Ça se veut un safe space, ça veut un endroit où les gens peuvent s'apercevoir qu'ils ne sont pas seuls, en fait. Puis ça, pour la santé mentale des activistes qui sont constamment pris avec...
Ça fait du bien.
De haine, ça fait du bien.
Ça fait du bien, on a besoin.
Puis c'est comme ça qu'on va avoir des mouvements résilients, c'est en étant capable de penser aussi à la santé mentale des activistes et de pouvoir s'interconnecter pour se soutenir.
Bruno Laprade, responsable des communications chez Égide. C'est un plaisir de te recevoir. On va certainement essayer de rencontrer ces gens quand ils seront ici à Montréal. Merci beaucoup.
Merci.